Hugo Brugière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président directeur général de CyberGun. On va parler avec vous de votre activité et puis des perspectives. Pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment va CyberGun? Comment va la société? Qu'est-ce qu'on peut en dire sur son activité au cours des derniers mois avec ce sujet Covid qui a touché toutes les entreprises?
Bah, écoutez, elle va bien. La société va bien. J'ai même envie de dire la société va mieux. Le Covid pour nous a été une période, évidemment, comme beaucoup difficiles, dans lequel nous avons dû faire face à des nouveaux challenges, tant en termes d'organisation interne, en termes d'organisation des équipes et des services, que évidemment en termes de marché, puisque nous avions un certain nombre de nos clients qui ont pu à certains moments être fermés, avoir des fermetures administratives, certaines frontières qui se sont également fermées au fur et à mesure de l'année. Mais assez étonnamment, on l'a publié dans les chiffres que l'on a rendu public fin novembre 2020, une année qui a plutôt été assez bonne, avec des vraies progressions, tant du chiffre d'affaires que de la marge, sur l'exercice. Voilà, donc on attend évidemment de savoir exactement ce qu'on publiera pour le 31 décembre 2020, parce que je vous rappelle qu'on publiera dans les délais légaux, c'est-à-dire avant fin avril, nos comptes annuels. Mais pour le moment, on est assez content, assez satisfait. Et sur ce sujet, le groupe va bien, et puis évidemment avec son désendettement qui est bientôt quasiment terminé, donc ça c'est encore évidemment beaucoup mieux.
Oui, ça c'est effectivement le sujet pour les actionnaires, je dirais qui prédomine hein, les questions des actionnaires. Sur la partie stratégique de l'entreprise, entre l'historique de l'entreprise et puis la transformation, notamment sur la partie militaire, le recentrage hein, sur les activités militaires, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette partie-là, où vous en êtes aujourd'hui?
Le groupe n'a plus rien à voir avec là aussi ce qu'on a connu dans le passé. Nos activités civiles continuent à représenter une part significative de notre chiffre d'affaires, mais ça ne représente pas une marge très significative et une rentabilité significative. Nos activités militaires, en revanche, sont en plein boom puisque nous avons fait une très belle année 2020. Nous avons terminé l'année 2020 avec l'annonce début janvier du contrat avec l'armée danoise que nous avons sous-traité, pour lequel nous avons été sous-traités par le groupe RUAG, qui est quand même le leader mondial de l'entraînement et de la simulation sur certains marchés. Nous avons d'autres marchés qui sont en cours aujourd'hui et qui, nous l'espérons, seront remportés dans l'année 2021 et là sont très très aussi significatifs. Donc aujourd'hui, le groupe n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on est bien plus axé sur le militaire, la défense et l'entraînement et la simulation que sur le marché civil.
Alors, compte tenu effectivement des licences que vous avez, on aurait pu aussi penser, au cours des derniers mois ou dernières années, que vous auriez pu aussi peut-être en céder certaines. On va reparler ensemble de la partie financière, mais vous auriez pu en céder pour récolter un peu d'argent pour CyberGun.
Oui, bien sûr, mais enfin, c'est notre fonds de commerce. Notre fonds de commerce, ce sont les licences. Donc, si on commence à céder nos licences, on cède notre fonds de commerce. Donc, ce n'était pas du tout l'objectif. Ça n'a jamais été vraiment, d'ailleurs, dans notre stratégie. Il a plutôt toujours été question de trouver de nouveaux vecteurs et des relais de croissance différents de ceux que l'on avait connus dans le passé pour arriver à gagner d'autres licences. Je vous rappelle qu'on l'a annoncé en 2020, on a gagné une nouvelle licence qui est la licence d'un manufacturier d'armes turc qui s'appelle Kanik, qui va sortir maintenant dans les premiers produits, sortiront dans quelques semaines. Donc on est plutôt en train de développer et d'étoffer notre portefeuille de licences que de les céder.
Alors, quand on parle effectivement de dette et désendettement de CyberGun, la route est très très longue et quand on regarde le cours de bourse, c'est forcément ce qu'on voit. Même si on prend le départ en prenant votre arrivée hein, à la tête du groupe et ce qui s'est passé après, bon, on peut, alors certains disent, voilà, on a divisé le cours par 25 000, on ne sait plus en fait où on en est, on a l'impression que c'est sans fin. Comment vous voyez les choses dans une première approche justement sur cette dilution, on va dire, oui, je disais sans fin, à répétition?
Vous avez raison de préciser que quand je suis arrivé chez CyberGun en 2014, on avait pas loin de 45 millions d'euros de dettes pour autant de chiffre d'affaires. Donc on avait déjà de toute façon une société qui était à l'époque morte et qui n'avait aucune capacité de rebond en elle. Donc, le désendettement de la société a été notre priorité sur les 4 dernières années. Vous avez suivi sans doute que l'année dernière, nous avions trouvé un accord avec les obligataires et nous avons réussi à rentrer dans une période d'equitization du passif de la société Cybergun en utilisant un mécanisme de fiducie pour traiter la dette. Aussi. Dans les jours à venir, il nous reste à mon avis 15 jours, peut-être 3 semaines sur cette equitization et nous aurons complètement fini de désendetter le groupe Cybergun. Donc oui, bien sûr, le cours il a été divisé par X milliers ou dizaines de milliers, ouais, c'est vrai, mais on a en 4 ans désendetté de 45 millions d'euros la société. Il y a des moments où ça ne pouvait pas passer par des milliards d'options. Et ça a effectivement été fait, notamment grâce à la sollicitation et à l'appui fort et sans faille du marché. Et on espère bien sûr qu'on arrive au bout de cette partie d'aventure. Il faut savoir, et on l'avait déjà parlé à plusieurs reprises quand on avait fait des entretiens ensemble, qu'on n'a quand même pas eu beaucoup, beaucoup de chance depuis qu'on était arrivé chez Cybergun. Vous vous souvenez qu'on avait, quelques mois après notre arrivée, on avait perdu Walmart, qui était notre plus gros client avec lequel on faisait un cinquième de notre chiffre d'affaires mondial, qui nous avait claqué entre les pattes. On avait un certain nombre de gros clients qui ont déposé le bilan les uns après les autres aux États-Unis suite à la pression d'Amazon. Tout ça nous a généré des pertes de chiffre d'affaires et de marge colossales qu'il a fallu compenser différemment. Donc, j'ai envie de dire, la dilution a évité la faillite.
Alors, on refait jamais l'histoire, mais ça aurait peut-être été plus simple que Cybergun fasse faillite et que vous la repreniez au tribunal de commerce pour 1 euro et que vous repartiez sur une nouvelle aventure, pas forcément en bourse d'ailleurs.
Bah oui, mais vous le dites vous-même, on ne refait pas l'histoire. Bien évidemment que si on devait regarder le dossier Cybergun aujourd'hui comme on l'a regardé en 2014, l'histoire serait peut-être différente. Enfin, je vous rappelle quand même que l'actionnaire de référence que nous sommes, avec cette double casquette de dirigeant et d'actionnaire de référence, en tout cas d'actionnaire historique de Cybergun, nous avons à date perdu en tout cas une moins-value latente de quasiment 9 millions d'euros. Donc, bien sûr que, évidemment, c'est à refaire l'histoire et à se dire qu'on aurait pu faire différemment, c'est certain, mais l'histoire se juge beaucoup plus facilement dans le futur qu'on ne peut le juger à l'instant présent.
Alors, on a vu effectivement ces mécanismes hein, d'obligations convertibles en actions, et ce n'est pas que le cas pour Cybergun, mais on l'a vu sur d'autres entreprises. Clairement, les actionnaires qui étaient là, notamment les plus petits d'entre eux, bien subissent des dilutions massives. Et effectivement, ils se demandent quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors, je dirais qu'on voit, quand on regarde aujourd'hui le cours de Cybergun, finalement, c'est un cours pour faire du trading, mais ce n'est pas un cours d'entreprise, entre guillemets, normal.
Mais vous avez clairement raison. Encore une fois, moi, je ne peux que m'associer à tous les actionnaires de Cybergun qui disent nous avons perdu de l'argent. Je viens de vous dire qu'on avait perdu aujourd'hui 9 millions d'euros. Donc, je suis le premier à effectivement être sensible à cet argument. Maintenant, nous avons perdu 9 millions, mais nous avons encore la possibilité de récupérer quelques euros, parce que je pense qu'une fois qu'on sera arrivé au bout de cette aventure de restructuration, notamment de cette dette financière, la société assainie avec un nouveau business model qui crache un EBITDA largement positif permettra effectivement de retrouver des niveaux qui peuvent être intéressants, tant des niveaux de cours que des niveaux de valorisation. Et en même temps, je préfère aujourd'hui avoir une chance de récupérer quelque chose que la certitude d'avoir tout perdu.
Avec justement tous ces mécanismes financiers, parce que finalement, quand on regarde, c'est un des rares sites, quand on regarde le site investisseur de Cybergun, où il y a marqué la partie fiducie dont on a parlé, les OCA, finalement, l'investisseur, là, il a tous ses produits financiers devant lui, il se demande quand ça va finir, il n'a pas forcément d'horizon. Est-ce qu'il faut pas il faudra pas regrouper les actions, parce que je parlais d'une division par 25 000 que depuis 2015, à quel moment effectivement les actionnaires peuvent se dire bon, on revient à un semblant de normal, c'est-à-dire avec une entreprise qui a un chiffre d'affaires et de la rentabilité.
Ouais, c'est un vrai sujet. On n'a pas fait tout ça pour rien. Donc aujourd'hui, regardons quand même les choses de façon dépassionné et en dehors effectivement de cette dilution et de ce que ça a créé. La société est, on l'a dit tout à l'heure, quasiment désendettée, puisque son dernier mur de dette qui lui restait, c'était ses 9 millions de dettes obligataires qui avaient une maturité en 2020. À peu près personne sur la place de Paris n'avait misé sur le fait qu'on s'en relèverait et qu'on serait capable de surmonter le mur. On l'a surmonté, on l'a dépassé et aujourd'hui, dans quelques semaines, il sera derrière nous. C'est-à-dire qu'on aura une société qui fait 25-30 millions de chiffre d'affaires, qui est désendetté à 100%, qui n'a plus du tout de dette, qui a des moyens financiers en face, puisque nous avons une trésorerie aujourd'hui significative, nous avons un niveau de stock significatif. Bon, voilà, on est aujourd'hui à l'aube de la nouvelle page, de la nouvelle histoire du groupe Cybergun. Mais il reste encore quelques étapes, quelques dernières étapes à franchir avant de retrouver le fonctionnement normal d'une société cotée normale.
Oui, parce que effectivement, le chemin est long, on le disait, quand on trace des courbes depuis 2015 ou même avant, effectivement, pour le titre, c'est toujours dans le même sens. Et je dirais, on est aujourd'hui sur de la spéculation au jour le jour, mais avec des actionnaires qui ont perdu confiance, des actionnaires qui, effectivement, vous reprochent un certain nombre de choses, un certain nombre d'actions sur ces opérations financières. À quand la confiance peut-elle vraiment revenir, de votre point de vue?
Mais vous avez raison, et sur le fait qu'aujourd'hui, le cours de Cybergun est devenu un cours spéculatif intraday et ce n'est plus du tout un cours d'une société cotée sur du moyen long terme. C'est évident. Aujourd'hui, les niveaux de liquidité sont quand même encore stratosphériques à l'échelle d'effectivement la dilution dont vous avez parlé, la baisse de cours dont vous avez parlé, etc. Donc, il y a quand même aujourd'hui encore beaucoup de gens qui suivent le titre Cybergun, mais plus du tout du profil d'actionnaire de la société en tant que telle. C'est-à-dire, on a beaucoup effectivement de traders intraday plutôt que d'actionnaires purs. Et je pense que les actionnaires effectivement qui sont restés en dehors de ça récemment, ne font pas forcément, si c'est pour faire du moyen long terme, ne font pas forcément une mauvaise affaire en restant loin de ce titre aujourd'hui. La confiance ne pourra revenir qu'à partir du moment où la société délivrera. Et ça, je le sais très bien. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on ne vend pas un discours de rêve aux actionnaires pour leur dire venez, revenez, c'est le moment de revenir. Aujourd'hui, nous sommes encore au milieu du pont. Alors, on est plutôt du côté le plus proche du quai qu'on n'en a jamais été, mais aujourd'hui, il nous reste encore des étapes significatives à franchir avant de pouvoir délivrer et d'être donc au rendez-vous pour dire aux actionnaires « Ayez confiance, revenez avec nous sur du long terme ».
Bien, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Merci, Hugo Brugière, d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.